RFI, grand reportage.
Thomas Arms.
Grand reportage aujourd'hui. Que reste-t-il du rêve américain? 320 millions d'habitants, 9 800 km², 5 fuseaux horaires, 50 États aux juridictions diverses et une incroyable diversité ethnique et des inégalités sociales criantes. Les États-Unis sont un pays immense et complexe qui va devoir élire son prochain président dans quelques jours. Hillary Clinton propose une Amérique plus sociale et inclusive où l'État assure le bien-être de la collectivité. Donald Trump, une Amérique plus individualiste, protectionniste et moins ouverte à l'immigration. De programmes pour l'avenir des États-Unis qui reposent sur deux visions différentes de l'histoire et du rêve américain. Carlota Morteo a traversé d'est en ouest ce vaste territoire pendant 35 jours. Elle a voyagé en bus et en train, a logé tous les soirs chez des Américains et a recueilli leurs avis sur l'élection et leur vision des États-Unis. Que reste-t-il du rêve américain? Un grand reportage signé Carlota Morteo.
Je comprends que les gens votent Trump parce qu'il est raciste. Et les États-Unis sont très racistes.
Les gens se retrouvent dans ses discours parce qu'il est ignorant. Et les gens qui ne savent rien non plus gravitent autour de ce candidat qui leur ressemble. Trump ne dit rien de scientifique, mais les gens le trouvent humain, commun même, et s'identifient à lui.
Je quitte New York en ce début d'automne, la tête emplie d'opinions démocrates. Dans la bouche des citadins, dans les pages des journaux, les électeurs de Trump sont dépeints comme des gens racistes, peu éduqués, anti-système, qui font partie d'une classe moyenne blanche déclassée. Pour mieux comprendre, il faut quitter la côte, s'éloigner des villes. Après 12 heures de bus à travers les vertes collines de la Pennsylvanie, je m'arrête à Waynesburg, une petite bourgade rurale dont l'économie dépend de l'extraction de charbon. Ces dernières années, les nouvelles réglementations environnementales décidées par le gouvernement Obama ont provoqué la fermeture de centaines de mines et d'usines et laissé des milliers de mineurs sur le carreau. Hillary Clinton a déclaré qu'elle continuerait la politique anti-charbon si elle était élue. Les mineurs voteront donc Trump cette année et ils ne sont pas les seuls ici.
Il faut se demander qui peut faire le boulot. Trump fait preuve de bon sens politique et il a les connaissances économiques.
Becky McCollum, petite blonde très coquette, est enseignante d'histoire. Devant sa maison, un drapeau américain et une pancarte pro-Trump. Elle vit avec Joe, militaire à la retraite.
J'ai fait 6 ans d'études supérieures et elle en a fait 4. Nous avons voyagé dans de très nombreux pays du monde et nous adorons aller à Washington, à New York, ces belles métropoles cosmopolites. Mais quand on arrive là-bas, on nous traite de rustes, de rednecks. On nous dit qu'on aime trop nos armes, nos bibles, qu'on n'est pas sophistiqué. Eh bien non, on est très sophistiqué. Simplement, on vient d'ici, alors on comprend la mentalité du coin. Et on comprend aussi qu'en ville, c'est un autre mode de vie.
Dans une armoire du salon sont rangées plusieurs armes à feu. Le week-end, Joe et Becky aiment aller chasser les daims et les biches dans les forêts et ils s'entraînent souvent au tir dans leur jardin. C'est là, fusil à pompe à la main, face à une pyramide de canettes à dégommer, que je réalise que l'histoire se répète. Hillary versus Trump, pas l'illustration de la fracture politique historique autour du rôle de l'État fédéral. Joe, 1m90, larges épaules, a servi dans l'armée au Kosovo, puis en Irak, et il adore parler de politique.
Il y a une raison qui explique pourquoi, juste après le premier article de la Constitution sur la liberté d'expression, il y a le deuxième article sur le droit de posséder des armes. Les pères fondateurs l'ont mis là pour protéger le premier article et résister à la tyrannie. Ils nous ont donné le droit de posséder des armes pour que l'on puisse résister. Le gouvernement ne peut pas nous imposer ce qu'il veut par la force. Donc, si le peuple est armé, il peut contre-attaquer.
Et à armes égales, l'idée est que si l'armée utilise des mitraillettes, eh bien tu sais quoi, moi aussi. Nous sommes censés être sur un pied d'égalité parce que c'est comme ça que nous sommes devenus indépendants de l'Angleterre.
Le port d'armes, un sujet polémique devenu éminemment politique depuis le décès d'un des juges conservateurs de la Cour suprême. Un siège est encore vacant et d'autres pourraient bientôt le devenir vu le grand âge des sages. Le prochain président des États-Unis sera chargé de nommer à vie ces juges qui décident si les lois sont conformes à la Constitution.
Si Hillary Clinton gagne, on va se retrouver avec des juges libéraux qui pourraient dire telle ville a le droit de bannir les armes, et cela provoquerait un précédent juridique qui pourrait s'appliquer à n'importe quelle autre ville du pays. Ce serait une mise en danger de l'article 2. Beaucoup de gens ne comprennent pas que s'ils peuvent commencer à amender ainsi la Constitution et nous interdire de posséder des armes, ils peuvent aussi se dire « on ne veut plus de manifestations » et nous interdire le droit de nous rassembler, interdire le droit de protester. C'est pour ça que cette élection est peut-être la plus importante de notre histoire.
Becky et Joe voteront donc Trump, même s'ils ne se considèrent pas républicains, mais libertaires, c'est-à-dire libéraux sur les questions de société, telles que le mariage homosexuel, l'avortement ou la légalisation du cannabis, mais conservateurs sur les questions fiscales. Les deux autres grands sujets d'inquiétude pour eux sont la dette des États-Unis, qu'ils jugent astronomique, 20 milliards de dollars, et le fait qu'un Américain sur deux bénéficie d'une aide financière de l'État. Becky et Joe en ont assez de payer des impôts pour financer un système de sécurité sociale qu'ils considèrent au mieux défaillant, au pire, anti-américain.
Il est fort probable qu'on se dirige vers une forme de socialisme à l'européenne, parce que, bien sûr, les gens aiment recevoir des trucs gratuits.
Si je suis pauvre, le gouvernement me donne de l'argent. Plus j'ai d'enfants, plus il m'en donne, et je peux bénéficier d'un logement pas cher, de soins dentaires gratuits, de consultations et de vaccins gratuits. On leur donne des téléphones, des manteaux.
C'est dingue. Avant, tu étais pauvre, ok, ta famille t'aide. Mais c'était aussi une motivation pour aller chercher un emploi. Il y a de la dignité dans le travail. Et parfois, les gens ont besoin d'un coup de pied aux fesses pour se bouger.
Le travail, la propriété privée, le sens des responsabilités, des valeurs pour eux intrinsèques à l'identité américaine, et de citer en exemple les figures les plus diverses.
Le président Obama est parti de rien. Sa mère, ses parents, ils n'étaient personne.
Ronald Reagan, lui, avait un père alcoolique. Ces types sont partis de tout en bas et ont réussi à devenir président de la République parce qu'ils ont travaillé dur. Il faut juste qu'on retourne aux valeurs qui ont fait la grandeur de ce pays. L'individualisme, la responsabilité personnelle, c'est le plus important. Ça résoudrait beaucoup de problèmes.
Si tu fais une overdose d'héroïne, c'est ton problème. On ne va pas payer pour des centres de désintoxication ou pour que les médecins viennent te sauver. Tu fais une overdose, tu meurs, c'est ton choix.
Profondément patriotes, Joe et Becky, aux lointaines origines irlandaises et croates, ont l'impression que l'identité nationale se perd au profit de l'identité communautaire, linguistique ou ethnique de chacun.
Au lieu de dire « je suis américain », on dit « je suis afro-américain » ou « je suis mexicain-américain » ou « syrien-américain ». Même Roosevelt n'était pas d'accord avec ça. « Je ne crois pas à ce concept d'américain avec un trait d'union », disait-il. « Soit tu es américain, soit tu ne l'es pas. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas profiter de ton héritage. Profites-en, mange des plats typiques de ta famille, parle ta langue à la maison. Mais quand tu te présentes en public, tu dois être un américain. »
Quand j'étais à l'université il y a 30 ans, on était fiers de dire que l'on faisait partie d'un melting pot. En clair, on était une soupe géante, il y avait des Italiens là-dedans, des Allemands, des Croates, et on était tous pareils. Je suis retourné à l'université il y a 2 ans. Et maintenant, on est une salade. Les tomates ne se mélangent pas tout à fait au reste de la salade.
Donc tu vois, si tu n'aimes pas les tomates, tu peux les enlever. Alors que dans la soupe, tout est broyé et il reste le goût de la tomate.
Pourquoi ne parle-t-on pas des choses qui nous unissent plutôt que de celles qui nous divisent ?
Divisés, les anciens États esclavagistes du sud des États-Unis le sont particulièrement. Le Tennessee, le Mississippi ou la Louisiane votent majoritairement républicains, mais là encore, les villes sont l'exception. Abritant d'importantes communautés noires, Nashville, Memphis ou la Nouvelle-Orléans ne sont pas seulement les berceaux de la musique américaine, mais des enclaves démocrates. À la sortie de la gare de la Nouvelle-Orléans, un groupe d'Afro-Américains joue aux échecs.
Hillary.
Trump ne va rien faire pour nous, les Afro-Américains. Les démocrates, au moins, ils essayent. Obama n'a pas fait assez, mais il a fait de son mieux. À chaque fois qu'il a voulu faire passer une loi, les républicains l'ont bloqué. Qu'est-ce que tu veux faire ? Notre vie s'est un peu améliorée, mais le chemin est encore long.
Démocrates, les villes du Sud le sont de plus en plus. Tous les jours, arrivent à Nashville 300 nouveaux habitants, principalement des jeunes blancs, très éduqués, attirés par des logements abordables et un marché de l'emploi plus accessible que dans les métropoles côtières. Bob Laser, 29 ans, avocat, vient de s'acheter une maison dans un quartier de l'est de Nashville.
Pendant très longtemps, ce quartier était très pauvre. Et comme c'était un quartier pauvre et noir, les gens ne voulaient pas vivre ici. Mais depuis 5 ans, des restaurants branchés ont ouvert, ils ont commencé à construire de nouvelles maisons. Beaucoup de jeunes s'y sont installés, preuve qu'ils n'ont visiblement pas aussi peur des Noirs que les générations passées.
Comme lui, de nombreux jeunes urbains qui vivent en terre républicaine voteront démocrate, pas tant par conviction, mais pour faire barrage à Trump.
Malheureusement, je n'ai pas d'autre choix que de voter Hillary. Cette élection, pour moi, se résume à choisir le moins pire des candidats. C'est vraiment dommage pour notre pays. Mais ce qui est évident, c'est que chacun des candidats essaye de puiser dans les valeurs américaines pour attirer les électeurs. Donald Trump, par exemple, dit « J'ai construit cette grande entreprise, je suis un exemple de réussite à l'américaine, et voyez comment je suis indépendant, rebelle, anti-système et puissant, je suis la quintessence de l'américain. » Alors qu'Hillary Clinton, je pense, utilise la même ligne qu'Obama. Elle essaye de se présenter comme la candidate du rassemblement et que c'est cela la vraie valeur américaine, que nous sommes un melting pot et qu'on doit travailler ensemble pour triompher en tant que nation. Je pense que la question qu'on est en train de se poser collectivement est celle-là. Quelles sont nos valeurs fondamentales ? Chaque élection, vous savez, est un référendum national sur les valeurs du pays.
Sa fiancée, Perjan Tayyip, est l'incarnation même du rêve américain. Elle est kurde, née dans un camp de réfugiés en Turquie, arrivée à Nashville à l'âge de 1 an. Ses parents ont trouvé des petits boulots, elle est allée à l'école, a eu une bourse pour payer l'université et est aujourd'hui, à 27 ans, une avocate très bien payée. Elle parle kurde, sa famille est attachée aux valeurs traditionnelles, mais elle se sent profondément américaine.
Un des principes fondateurs de ce pays, de la vie américaine, du rêve américain, c'est que tu peux être de n'importe quelle origine. Si tu te consacres à ton travail et que tu essaies vraiment de réussir, tu vas y arriver. Et j'en suis d'autant plus convaincue que je suis la concrétisation même de cette idée. Je suis arrivée dans ce pays avec rien, tout ce que possédait ma famille tenait dans une valise. Et c'est parce que j'ai travaillé avec ardeur que j'ai réussi à avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Je crois du fond du cœur que les États-Unis sont vraiment une terre d'opportunités.
L'immigration est devenue une question sensible suite aux attentats qui ont eu lieu sur le territoire américain. Hillary Clinton veut accueillir 65 000 réfugiés syriens, soit 5 fois plus que la promesse de Barack Obama. Trump, lui, surfe sur la peur des étrangers, parmi lesquels, dit-il, pourrait se cacher un terroriste. Parmi ses propositions, expulser dans un premier temps les immigrés sans papiers, les criminels, puis construire un mur de béton de 10 mètres de haut sur les 3200 km de frontières communes entre le Mexique et les États-Unis. Dans le bus qui traverse le Texas, l'espagnol est désormais de rigueur. Ici, 4 habitants sur 10 ont des origines hispaniques, 8 sur 10 dans la ville d'El Paso, un passage frontalier niché entre le fleuve Rio Grande et des montagnes désertiques. Loretta Lopez, petite femme à la chevelure de jais, aime promener ses chiens sur les hauteurs de la ville.
Tout ce que tu vois là, de l'autre côté du fleuve, c'est le Mexique. La nuit, on voit mieux la démarcation avec Ciudad Juárez parce qu'ils utilisent des lumières roses et nous des lumières bleues. Mais pendant la journée, c'est plus difficile de voir la frontière.
Ses parents sont nés au Mexique. Elle est née ici il y a 52 ans. Et en 52 ans, la vie a changé à El Paso.
La frontière était très fluide avant. Les gens faisaient des allers-retours à pied. Ils traversaient la rivière. Cette histoire d'immigration n'était pas vraiment un souci parce que ici, pendant longtemps, c'était le Mexique, bien avant que ça devienne les États-Unis. Alors les gens étaient là. Et quand j'étais petite, ma grand-mère, ma mère traversaient la frontière 2-3 fois par semaine. C'est seulement à 10 minutes d'ici. On faisait nos courses là-bas. Depuis le 11 septembre 2001, tout est devenu beaucoup plus rigide. Et puis, il y a eu les guerres liées au trafic de drogue au Mexique. Et la situation est devenue critique à Ciudad Juárez.
Quoi qu'en dise Trump, la frontière existe déjà bel et bien. C'est une tranchée entourée de barbelés puis de hauts grillages, surveillée par des caméras et des équipes mobiles de douaniers 24 heures sur 24.
On dépense chaque année des milliards de dollars pour sécuriser les infrastructures frontalières. En 10 ans, on est passé de 10 000 à 20 000 douaniers. Ça fait beaucoup de salaire à payer pour l'État.
David Shirk est professeur à l'Institut transfrontalier de l'Université de San Diego et il regrette qu'on médiatise les méfaits de l'immigration illégale plutôt que les bénéfices économiques que génère la frontière.
On dépense beaucoup d'énergie à gérer et contrôler la frontière, mais on n'a pas vraiment réfléchi à construire une frontière plus intelligente. Il faudrait être plus créatif, plus efficace pour faciliter le commerce. Environ 460 milliards de dollars de marchandises traversent tous les ans la frontière. Ce sont des milliards de dollars qui font prospérer l'économie des villes des deux côtés du mur. À mon avis, les États-Unis ne pourront bientôt plus se permettre un régime de contrôle aussi rigide, qui coûte autant d'argent.
Les latino-américains sont majoritairement favorables aux démocrates, mais encore faut-il qu'ils se rendent aux urnes. Victoria Quevedo est assistante sociale et militante dans un quartier défavorisé d'El Paso.
Une partie de mon engagement citoyen a été d'enregistrer les électeurs sur les listes électorales. C'est très difficile de convaincre les gens d'aller voter, parce qu'ils voient bien que les politiques ne s'intéressent pas à eux. Les gens sont très inquiets par les terribles propositions de Trump. Mais la réalité, c'est que pour ces gens pauvres, ces gens qui vivent à la frontière, ils vivent déjà dans l'Amérique de Trump. Ils vivent déjà dans un endroit où ils ont peur de demander de l'aide à la police si leur voiture est en panne. Leurs enfants ne peuvent pas marcher en toute sécurité dans la rue. Certains n'ont pas accès à l'assurance maladie. D'autres vivent avec la menace d'être expulsés, même s'ils payent des impôts, qu'ils travaillent ici bien plus que Trump. Alors, qu'est-ce que ça peut vraiment empirer ?
Sur son avant-bras, un tatouage représentant une étoile entourée d'un soleil et de deux branches vertes. C'est le symbole d'El Paso.
À mon avis, le mot « Amérique » est mal employé. L'Amérique, c'est l'Amérique du Sud et du Nord. Alors, je trouve ça étrange que les États-Unis se le soient approprié, qu'ils se disent « Américains », alors que pendant si longtemps, ils ont attaqué leurs voisins et soutenu des régimes violents en place. Le drapeau est pour moi le symbole de la suprématie blanche. Alors non, je ne me sens pas américaine en ce sens. Je fais partie de cette communauté. Je suis un mélange de races, une Chicana. La frontière, géographiquement, viscéralement, est une extension de moi et je suis une extension de la frontière.
Cap au nord vers le Nouveau-Mexique. Me voici en terre amérindienne. Dans les déserts de pierres et de cactus, les Amérindiens ont laissé leurs traces. Des dessins d'animaux, des mains gravées dans la roche, d'immenses monuments en ruines qui symbolisent le parcours du soleil et de la lune. Les États-Unis sont nés du sang, des peuples premiers et de la sueur des pionniers qui ont gravi ces montagnes, dévalé ces ravins, du Colorado à l'Utah pour trouver l'or californien. Sur la côte pacifique, revoilà les grandes villes cosmopolites, bouillonnantes de start-up, de démocrates convaincus et de ceux comme Jason Evans, 24 ans, afro-américain, garde forestier, qui veulent une révolution politique.
Pour moi, les principaux enjeux sont comment on va gérer le changement climatique. Et pas seulement en parler, mais respecter l'accord de Paris. On traverse déjà des périodes de sécheresse très graves. L'année dernière, 26 millions d'arbres sont morts à cause du manque d'eau en Californie. Donc je vais probablement voter pour Jill Stein, la candidate du Parti vert, parce que j'aimerais qu'on ait différentes voix au sein du gouvernement. Je pense que le temps est venu de passer au multipartisme, de sortir du bipartisme. Nous sommes arrivés à un point où personne ne semble aimer les deux candidats et les deux partis majoritaires. Mais il y a d'autres options. Donc j'ai le sentiment que c'est le bon moment de voter pour un plus petit parti. Surtout que la Californie va probablement être acquise aux démocrates. Donc ce n'est pas vraiment un gros risque.
Malgré leurs divergences politiques, leur diversité ethnique, leur régionalisme culturel, les inégalités sociales évidentes, la plupart des Américains à qui j'ai demandé ce que voulait dire pour eux être Américain m'ont souvent cité une phrase tirée de leur hymne national. Nous sommes la terre des hommes libres et courageux. Que reste-t-il du rêve américain ? Un reportage de Carlotta Morteo, réalisation Eva Moschinski.